Bonjour, je suis en train d'écouter le procès en réhabilitation de Bernard-Henri Lévy. Mon grand regret est de n'avoir pas pu aller au théâtre des âgés pour assister à ce procès. Est-ce que vous avez fait une cassette? Je l'achète. Je n'ai pas encore Internet, mais ça va venir pour l'enregistrer. Votre prix sera le mien, c'est un régal. Et continuez, monsieur Vermé.
Je viens d'écouter l'émission sur la réhabilitation de Bernard-Henri Lévy. Ben, merci d'avoir ce type d'émission, parce qu'on se marre bien. C'est vrai que c'est bien d'avoir encore possibilité d'écouter cela. Et au sujet de la modification de l'horaire de l'émission, ben, je vais également signer la pétition. Mais je me dis finalement que peut-être ça va être une goutte d'eau de plus qui va faire réagir les gens et que peut-être au lieu d'être résigné, on va finir par faire la révolution. Il y a tellement de raisons de faire la révolution et l'émission, votre émission, notre émission est tellement importante pour ceux qui ne se résignent pas, pour ceux qui ont envie de se battre, pour ceux qui ont envie d'entendre la vérité sur notre fonctionnement, sur tout ce qui se passe autour de nous, sur ces informations que vous diffusez, qui sont des informations fouillées, des informations suivies, des informations complètes. Pas des spots publicitaires, etc. Merci, continuez. Ben, on va essayer de vous aider à garder l'horaire de l'émission. En tout cas, moi, je rameute les copains, les copines. J'en parle autour de moi. Je passe des coups de fil pour qu'on signe la pétition. À bientôt et merci à tous.
Bien sûr, ça n'est pas neutre. Bien sûr, c'est absolument anormal de toucher à une émission pareille, de toucher à ce créneau horaire. Je voudrais juste savoir comment la direction de France Inter entend donner une base, un fondement acceptable à cette décision. J'aimerais bien que pour nous, auditeurs, pour le respect des auditeurs, on nous dise, voilà, on enlève là-bas si j'y suis, parce que c'est pas bien, parce que ça fait pas assez d'audience. Non, assumez, ayez le courage de dire que c'est parce que c'est une émission qui n'est pas neutre et que c'est pas politiquement correct, tout simplement. Voilà. Monsieur Mermet, je vous remercie et j'espère vous entendre encore très longtemps. Au revoir.
Ouais, salut Daniel, Nicolas de Lyon. Je viens de recevoir la pétition là sur internet. Voilà. Bah, moi je voulais juste dire que j'écoute France Inter depuis le début de l'année et si je l'écoute, c'est grâce à des émissions comme Éclectique, comme là-bas si j'y suis, Panico dans la Palace. Des émissions peut-être de jeunes gauchos, j'en sais rien. Enfin bon. Voilà, et ben je sais pas ce que je vais écouter après. Hein. Déjà que j'avais coupé ma télé, ben maintenant je vais couper ma radio. En espérant que non. Et bonne journée, et puis bon courage.
Ouais, salut, c'est Azouz d'Aubert. J'appelais pour simplement énoncer mon soutien à l'émission. Et voilà, j'ai appris que, bon, il y avait peut-être que là-bas, si j'y suis, était remis en cause. Alors, sur cette remise en cause, j'ai deux choses à dire. D'une part, que là-bas, si j'y suis, est une... Et la dernière peut-être émission populaire à avoir lieu en radio à une heure de grande écoute, qu'elle nous a tous accompagnés, qu'elle nous rend tous un peu plus clairvoyants tous les jours dans ce monde compliqué. Et deuxièmement, que cette émission nous donne tous chaque jour un peu de courage quand même. Donc enlever une telle émission de la grille de France Inter, pour moi ça sera abandonner carrément France Inter, puisque c'est l'émission que j'écoute, qu'on écoute, ici notamment dans 93, et que pour soutenir cette émission et affirmer sa légitimité, je pense qu'un petit rassemblement devant la maison de la radio pour prouver notre attachement serait la moindre des choses. Voilà, bon courage à toute l'équipe, et j'espère que ça se passera bien. À plus, bon courage.
Bonjour, Benoît de Paris. J'écoute les radios, là. Je suis vraiment désolé. Cette émission va être décalée à 15h. C'est fini. Je pourrais plus l'écouter. Je termine à 17h. Il est vrai que des fois, c'est pas toujours. Je suis pas toujours d'accord avec ce que vous racontez. Vraiment très, très à gauche. Moi, je serais plutôt à droite. Mais à côté de ça, vous êtes capable de faire des reportages super. Moi, j'ai commencé à accrocher votre émission avec ce reportage fait par une dame dans la Tour du Renard à Outreau. Où là, j'ai eu une véritable information complètement différente de ce qui était véhiculé par les médias. Je me rappelle aussi de suite à la mort de votre mère, je crois, où vous aviez fait une petite balade dans votre village. C'était mignon comme tout, il y avait des grands moments d'humanité. Enfin voilà, si vraiment je peux plus l'écouter, je suis très déçu. Et puis pourquoi emmerder tout le temps cette émission en la critiquant à gauche alors qu'on est tous au courant que le 7-9 est à droite? Voilà, service public, un petit peu tout, la parité. Allez, courage, je vous êtes sur Internet.
Bon, c'est toujours triste de voir qu'une émission va être déplacée. Bon, ça, il semble que ça s'appelle de la censure. Ceci dit, bon, il y a un peu de malhonnêteté à dire que l'émission va être raccourcie. Elle n'est pas raccourcie, elle est déplacée, donc ça va certainement diminuer son audience. Bon, j'ai pris du plaisir parfois à écouter Mermé, en particulier quand il avait fait son émission spéciale sur Mouna, vous voyez que ça date de loin. Mais depuis, je suis de plus en plus déçue, ça devient de plus en plus sectaire, et le pompon a été atteint le jour où je me suis fait traiter indirectement de Charles Martel de la laïcité. Que je sache, je vous ai pas entendu parler de la séparation de l'Église et de l'État. Au contraire, vous donnez la parole à des gens qui prônent l'islamisme, ce qui ne me plaît pas beaucoup. Et vous n'avez pas tellement soutenu Charlie Hebdo dans l'affaire des caricatures. Et malheureusement, plus ça va, plus je trouve que les gens qui parlent, qui sur le répondeur, sont sectaires. Et c'est eux qui détiennent la vérité. Et ça, ça me gêne beaucoup. Voilà, donc finalement, je pense que malgré mon horreur de la censure, je ne perdrai pas grand-chose parce que j'écoutais de moins en moins là-bas si j'y suis. Désolée, c'était Lynn de Soisy-sur-Seine. Et encore, je suis très modérée par rapport à ce que parfois j'ai dit au moment où j'écoutais vos émissions. Au revoir.
Daniel, il est vrai que ton émission est partisane, mais quel journaliste ne l'est pas? Ce qui choque, ce n'est peut-être pas cela. C'est que tu es partisan de partis pris qui ne sont pas dominants. Or, justement, ce qui favorise la pensée, c'est la confrontation des pensées partisanes, la confrontation des pensées tout court. Il me semble évident que le changement d'horaire prévu pour ton émission est une forme de censure masquée. Cela m'attriste et m'inquiète. Si tu es programmé à 15h, je ne pourrai plus jamais t'écouter. J'aimerais que les responsables de France Inter et du service public reculent et qu'ils soient capables de nous montrer qu'ils acceptent que l'on donne la parole publique à quelqu'un qui critique le système économique actuel, qui critique la construction européenne telle qu'elle se fait, qui critique BHL ou qui critique la politique israélienne, etc. Qu'ils montrent qu'ils acceptent que l'on donne la parole à quelqu'un qui s'informe et qui tente de penser. Montrez-nous que nous vivons dans un État qui accepte en son sein la pensée et la critique. Je ne suis pas systématiquement d'accord avec toi. Peut-être que je te trouve parfois trop proche de José Bové, par exemple. Je ne suis pas toujours entièrement satisfait de la qualité de tes émissions. Trop de musique peut-être, mais il est vrai qu'il doit être difficile de diffuser quotidiennement. Mais toujours, tu as contribué à éveiller et à renouveler chez moi l'esprit critique. Pour cela, je te remercie et je suis avec toi dans ce nouveau combat.
Daniel, je voulais te dire tout simplement que je t'aime parce que tu as du cœur. C'est pas forcé diffuser le truc, mais mon nom c'est Potemkin, tu vois. Le gigolo de Catherine II, etc. Je suis russe, je suis juive de l'autre côté. J'ai beaucoup travaillé comme interprète. Il y a certains de tes reportages avec Zoé Varier qui traduit merveilleusement, avec le cœur, avec intelligence, qui m'ont fait chialer. Il y a d'autres trucs, d'autres reportages qui m'ont fait chialer. Et puis tu as un côté vieillanard comme moi. Tu sais, c'est le genre Brassens, Frédéric Dard, Cavana. Tout ça, j'aime. Tous ces sales cons qui te détestent, n'y fais pas attention, ils vont s'étouffer eux-mêmes de leur vomi de haine. C'est pas possible. Et je pense que je suis pas la seule à penser ça. On t'aime. Bisous.
La défense.
Alors, c'est un procès en réhabilitation de cet homme.
puisqu'il a déjà été condamné. Il ne s'agit pas ici de le condamner ou non, il a été condamné.
Alors voilà, le procès a déjà commencé après les messages comme celui-là et le dernier de Madame Potemkin. On le gardera quand même celui-là parce qu'il est merveilleux. Merci pour ces messages. Vous avez compris, si vous n'étiez pas au courant, que là-bas, si j'y suis, est en question. Là-bas, si j'y suis, est en danger. C'est vrai, puisque on l'a dit, la nouvelle direction de France Inter envisage de déplacer l'horaire de l'émission à 15h. Bien sûr, c'est pas le déplacement lui-même qui nous pose un problème. Quand je dis nous, c'est l'équipe de là-bas, si j'y suis tout entière. C'est pas le déplacement, bien évidemment, c'est que à 15h, eh bien, l'audience est de moitié moins importante. C'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes environ 500 000 par jour à nous écouter, et ce serait 250 000 à 15h. Et ça, c'est pas seulement France Inter. Actuellement, c'est sur toutes les radios comme ça. Donc, cette émission, je le répète, n'étant pas neutre, cette décision n'est pas neutre non plus, et nous contestons cette émission, et nous le contestons à travers une pétition qui circule actuellement sur le net. On vient d'arriver là à 40 000 signatures. La pétition a été mise en place vendredi soir, 40 000 signatures. Vous avez eu 40 000 à signer. Le serveur s'est débloqué, le nécessaire a été fait. Vous pouvez donc vous rendre sur ce site www.la-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez lire calmement les arguments de cette pétition et signer si vous le voulez. On va donc aujourd'hui, vous avez compris, assister à la deuxième partie du procès en réhabilitation du grand philosophe français, monsieur BHL. Mais auparavant, Antoine, on a quelques messages à nouveau à vous faire entendre.
Ouais, salut, c'est Eric de Triel. C'est marrant parce que même le gars là qui t'appelait là et qui te critiquait à fond et qui souhaitait que ton émission disparaisse, je crois qu'il t'aime quand même. Puisque en fait, il a pas pu s'empêcher pendant toutes ces années de pas couper le bouton. Hein, franchement, c'est dingue quoi. Soit il est maso, soit il t'adore. Mais en fait, je pense qu'il te soutient. Hein. Comme la plupart des gens qui t'ont critiqué aussi et ceux qui te critiquent pas. Allez, salut.
Oui, bonjour, c'est Sandrine de Charente-Maritime. Je viens d'apprendre que vous seriez déprogrammé éventuellement, enfin, a priori, sûrement, au mois de septembre, pas à 17h, mais à 15h. Alors, ben, écoutez, moi, je vais demander aussi à Radio France, à la direction de Radio France, et notamment à la direction de France Culture, de déprogrammer monsieur Alexandre Adler le matin qui est à 8h15, pardon, de le mettre à minuit, et monsieur Alain Finkielkraut qui est le samedi matin, de le déprogrammer et de le mettre le dimanche vers 1h ou 2h du matin. Voilà, je vous remercie beaucoup, au revoir.
Nous allons accueillir la cour.
Enregistré au théâtre de Jazet, deuxième partie du procès en réhabilitation du philosophe français, monsieur BHL.
Flight number 2, arriving from New York.
L'audience est ouverte.
Voilà, merci. Nous allons reprendre le cours de l'audience. Voilà, témoin suivant, monsieur Roté Bertrand. Vous voulez bien vous présenter. Voilà, monsieur Roté Bertrand. Vous êtes professeur de cinéma. Est-ce que vous pouvez préciser vos activités, monsieur Roté Bertrand?
Effectivement, je suis professeur de cinéma dans une école privée. Assez cher, réservé au fils à papa.
Très bien.
Alors, je voudrais témoigner pour dire, vous avez cité tout à l'heure le livre de Nicolas Beau et d'Olivier Tosseur, je voudrais rajouter le livre de Philippe Cohen. Jusqu'à maintenant, et je peux vous dire ma honte, je donnais 3 consignes à mes élèves. Premièrement, travailler. Deuxièmement, aller à la cinémathèque. Troisièmement, lire les cahiers du cinéma. Et je peux vous dire que, en lisant ces 2 livres, je me suis aperçu que je me suis trompé. Lorsqu'on veut faire du cinéma, il n'est aucunement nécessaire de travailler, aucunement nécessaire d'aller à la cinémathèque, aucunement nécessaire de lire les cahiers du cinéma. Et pour moi, ces 2 livres sont une révélation. Maintenant, je fais un cours à mes élèves totalement différent. Je leur dis que pour faire du cinéma, la première chose nécessaire est de trouver de l'argent. Et là, BHL est un maître. Tous mes élèves, et je sais que j'en ai dans la classe, s'ils pouvaient m'applaudir, ça me ferait plaisir. Merci. Tous mes élèves ont dans leur entourage un homme riche et inculte comme Monsieur Pinault. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est l'entraîner et créer avec lui une maison de production. C'est nécessaire. C'est la première chose, le premier réflexe que mes élèves doivent avoir. Ensuite, lorsqu'ils ont fait ça, le travail commence. Après, il est nécessaire de se rapprocher, évidemment, des endroits où il y a de l'argent. L'avance sur recette. Et vous sachez qu'en 1991, BHL s'est fait nommer par Jacques Lang à la tête de l'avance sur recette. Donc, avec ça, une maison de production, l'avance sur recette, commencez par choisir et pistonner un peu vos amis, même s'ils n'ont jamais fait de cinéma. Exemple, Monsieur Rob Grillet, à condition qu'il choisisse Mademoiselle Dombal, qui était là tout à l'heure. Et effectivement, dès 1992, Monsieur Rob Grillet a pu faire un film. D'accord. Et pour montrer votre puissance, il faut rejeter une ou 2 personnes. C'est ce qu'a fait en 1993 Monsieur BHL. Il a dit non au film Germinal de Claude Berry. Rien que ça, d'accord. Donc comme ça, il a assis son pouvoir. Moi, vraiment, je l'apprends à mes élèves. C'est nécessaire de commencer comme ça. D'accord. Ensuite, il faut trouver un moyen de diffuser le cinéma. Et là, BHL reste notre maître. En 1993, malgré le changement de majorité, il est élu par Carignon, ministre de la Culture du gouvernement Balladur, président du Conseil de surveillance d'Arte. Alors là, mes élèves, généralement, je leur dis, si vous faites ça, c'est bon, vous allez pouvoir faire du cinéma. Donc effectivement, et je leur ai dit, là on apprend quelque chose, ne faites pas de politique, ça c'était bon pour vos pères, c'est hors de question de faire de la politique. Carignon, Lang, on s'en fout. Le principal, c'est qu'effectivement, ils vous nomment où vous avez envie d'aller. Ne faites pas de politique, mes élèves, je vous en supplie. Après ça, vous placez vos gens. Lorsque vous êtes dans Arte, vous prenez la commission du cinéma, parce que c'est ce qui vous intéresse, les autres, vous vous en foutez, et vous nommez les personnes que vous aimez. Toscan Duplantier, c'est votre copain, vous le nommez. Bon, il est un peu dans le cinéma, donc ça pose moins de problèmes. Mais François Giroux, qui n'y connaît rien, vous la prenez. Là, elle est toute pour vous, et elle va vous faire. Ensuite, et c'est là où tout commence, mais je veux pas arriver après d'autres. Ensuite, il faut faire la promotion de votre film, messieurs. Et alors là, effectivement, il faut choisir. Moi, je leur conseille, hein, tous les jours, je leur dis, allez dans les écoles de journalisme, pas dans les écoles de cinéma, on s'en fout. Allez trouver le futur Anne Sinclair, allez trouver la future Ardisson. C'est là la clé de la réussite. Et là, hop, vous les mettez sous votre aile. Et puis ensuite, si vous n'avez pas le temps, cultiver, mais ça a été développé avant, tous les patrons de presse. Et alors là, messieurs, c'est sûr, le cinéma est à vous. Et par rapport à ça, j'ai 2 conclusions. 2 conclusions que je leur répète tous les jours. Si vous êtes aussi bon que ça, vous pouvez faire un film qui, comme celui de Bernard-Henri Lévy, a été subventionné à hauteur de 110 euros par personne en salle. 110 euros, hein. Messieurs, chapeau bas, on pourrait se lever. Je pense qu'effectivement, 110 euros, ça mérite qu'on se lève. Et effectivement, moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir lu ces livres avant. Parce qu'effectivement, j'ai formé 5 ou 6 générations de cinéastes, de futurs réalisateurs de films qui n'ont pas compris ça. Je leur ai dit, effectivement, travaillez, allez à la cinémathèque, lisez les cahiers du cinéma. Ce sont des générations perdues. Je le regrette.
Monsieur l'avocat général, une observation.
Ouais, une simple nuance par rapport aux propos de monsieur le professeur de cinéma. Il évoque une subvention de 110 euros par spectateur, c'est vrai, mais il faut quand même rappeler que le film de Bernard-Henri Lévy n'a eu que 70 000 spectateurs, donc ça relativise le niveau de la subvention, c'était tout.
Et la défense ?
Oui, je trouve que c'est un propos un peu mesquin de l'accusation, parce qu'on est quand même en train de parler d'art, et résumer l'art à l'argent, c'est un peu bas.
je signale à la défense, mais je me permets parler, si vous voulez, qu'effectivement je suis... Je défends M. BHL, que M. BHL doit devenir un exemple pour les futures générations, qu'effectivement, c'est au nom du cinéma français. Moi, j'ai demandé, et je réclame, la Cinémathèque doit être baptisée Cinémathèque BHL. Je l'ai demandé. Maintenant, je l'exige. Je l'exige.
Oui, ben, Monsieur le Président, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. C'est un véritable hymne au monde moderne qui s'est, pourrait être parfaitement résumé par « Mieux vaut être riche, beau et intelligent ». Que pauvre et malade.
En effet, en 1986, M. BHL déclarait dans le magazine Globe, je cite, « Ma religion est faite entre l'État et la bourse. Je choisis la bourse. » Merci beaucoup. M. Bertrand Rothé. Monsieur Bernard-Henri Lévy a déclaré « Philippe Cohen est amoureux de moi ». Alors nous avons demandé à monsieur Philippe Cohen de bien vouloir venir témoigner, s'il veut bien. Voilà, Philippe Cohen. Et Philippe Cohen, vous êtes écrivain ?
Plutôt journaliste, monsieur le Président.
Vous êtes journaliste. Vous êtes co-auteur avec Pierre Péan d'un livre à succès intitulé « La face cachée du monde ». Et... auteur donc de ce livre, BHL, une biographie, 450 pages. Alors, Monsieur Cohen, comment se fait-il que Monsieur Bernard-Henri Lévy, après que vous ayez écrit ces 450 pages à son sujet, ait pu dire de vous, Philippe Cohen est amoureux de moi ?
Je vois, Monsieur le juge, que vous n'avez pas demandé de jurer.
Et... Ah, j'ai oublié. Alors écoutez... Je pensais que la défense.
Je vous en sais gré. Car être obligé de jurer de dire la vérité m'aurait posé en vérité un problème de conscience. Comme vous le savez, peut-être, prendre la défense sur 450 pages, comme vous l'avez dit, de Bernard-Henri Lévy a failli me coûter très cher au niveau professionnel. J'ai 53 ans, j'ai 3 enfants. Aussi, si vous me demandiez d'être totalement sincère, je crains que cela puisse nuire à ma carrière. Alors, pour répondre à votre question, je voudrais, en effet, en gage d'amour, montrer un certain... rappeler quelques citations de mon propre livre, excusez-moi de le faire, qui montrent la ferveur de mon sentiment. BHL, c'est le choix de la forme contre le contenu. Quoi de plus moderne, en fait. BHL est devenu l'un des derniers censeurs opérationnels du système médiatique. Autre citation, les idées, les livres, les initiatives de BHL ressemblent davantage à des prestations qu'à des œuvres. Il n'a pas écrit une seule belle phrase, c'est aussi dans mon livre. Il n'a pas inventé un seul concept, c'est aussi dans mon livre. Il n'a été l'homme d'aucune découverte intellectuelle. C'est aussi dans mon livre. Alors, vous allez me dire que j'ai un peu l'amour vache.
Monsieur Philippe Cohen, vous avez inventé un mot qui est le mot BRI. B-R-I. Beau, riche et intelligent. Au sujet de Bernard-Henri Lévy, bien évidemment. Ce qui montre effectivement vos capacités de flagorneur, comme tout un chacun ici. Donc, on peut imaginer que BHL fait des jaloux et constitue aussi un modèle pour la jeunesse. Comme vous dites, le temps passe, nous vieillissons tous. Et on peut imaginer tout à fait que les jeunes générations, aujourd'hui, souhaitent devenir Bernard-Henri Lévy. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment devient-on Bernard-Henri Lévy ? Est-ce que vous pouvez vous adresser à nos plus jeunes auditeurs, auditrices, et leur dire comment l'on fait pour devenir Bernard-Henri Lévy, vous qui avez écrit ces 450 pages au cours de 18 mois de labeur sur M. BHL.
Oui, alors, on dit parfois, enfin, ces détracteurs disent parfois de Bernard, excusez-moi, je l'appelle Bernard, comme tous ses amis, bon, disent parfois, donc, de Bernard qu'il est narcissique, polarisé par sa seule personne et je dois m'inscrire en faux contre cette affirmation. En réalité, comme vous le savez peut-être, Bernard a une fille qui a eu, qui a du talent et qui est un écrivain, et à laquelle il a en quelque sorte consacré une œuvre de transmission, c'est-à-dire que et c'est ce que je détaille dans mon livre, quelle manière finalement Bernard a tenté de transmettre à sa fille un certain nombre de ses propres talents et de ses ficelles en quelque sorte. Alors je vais en citer simplement quelques-unes. Sans liberté de flagorner, il n'est point de position flatteuse. Je conseille, Bernard conseille entre 25 et 35, 40 flagorneries par an, à raison, disons, d'une ou deux chroniques du point, parce que à peu près c'est le bon dosage qui convient. Disons que sur 10 ans, vous pouvez arriver de cette façon-là, moins les répétitions bien sûr, à flagorner environ 250 à 350 personnes. Si là-dedans il n'y a personne qui compte, c'est que vous avez vraiment de la malchance. Deuxième précepte, renvoie toujours l'ascenseur à qui t'honore. Il s'agit là, en fait, de retrouver un vieux principe que nous ont enseigné les ethnologues, c'est-à-dire que l'humanité est fondée sur l'échange. Hein, je t'honore, tu m'honores, je t'honore, tu m'honores, je t'honore, tu m'honores, et ainsi jusqu'à la fin de la carrière. Troisième précepte, pas d'ennemis chez les journalistes. Il s'agit d'un mot d'ordre quasiment absolu. On peut à la rigueur se trouver quelques journalistes ennemis, mais leur nombre ne doit pas excéder 4 ou 5, c'est-à-dire le nombre d'auteurs de livres sur Bernard-Henri Lévy. Cinquième principe, très important celui-là, dans la Bible, il vaut mieux être David que Goliath, mais dans la vie, c'est l'inverse.
Merci beaucoup, Monsieur Philippe Cohen. Alors, avant d'en venir aux plaidoiries, je vais demander à Monsieur Noël Godin, l'entarteur, et non pas l'entartreur, je m'adresse à la Défense, de faire ses observations. Alors, Monsieur Godin, vous avez entendu les témoignages. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?
La prochaine gloupinisation de Bernard-Henri Lévy aura lieu environ dans 2 ans, puisque nous procédons tous les 2-3 ans, à moins que, grâce à vous, il ait chanté publiquement le chapeau de Zozo.
Alors, on va chanter tous ensemble, monsieur Godin, le chapeau de Zozo, comme vous le souhaitez, visiblement. Alors, on souhaiterait que l'assistance n'oublie pas les paroles, c'est très important, entartons, le pompe cornichon. Aussi, nous avons demandé à Jérôme Bourdelon, qui est là-bas, qui est là-haut, qui est musicien, de composer un petit air, afin que chacun mémorise ses paroles, entartons, le pompe cornichon. On va essayer, monsieur...
Oui. Une question importante d'abord.
Oui, si vous voulez.
Non, j'ai une question importante parce que vous avez dit donc, quand l'attentat pâtissier est réussi, vous vous écriez gloup, 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 gloup. Mais j'aimerais savoir quand vous ratez, est-ce que vous dites pas gloup, pas gloup, pas gloup, pas gloup ?
Mais là...
Ça, c'est une question qui, je crois, est importante.
La question est très savoureuse. De toute façon, les gloup, gloup se prononcent pendant même l'opération. Au dernier salon du livre, c'est une véritable vague d'assaut à la Spartacus qui a déferlé sur BHL. Il faut dire qu'il était excellemment protégé. Il est arrivé avec 5 gardes du corps. Il y avait la protection des éditions Grasset, plus la sécurité du salon du livre même, ce qui fait qu'il avait une quinzaine de protecteurs. Mais il fallait bien qu'il souffrait quelque peu sur la centaine de vieilles toupies qui attendaient pour le faire signer. Alors, notre grand secret, c'est le nombre, car c'est une trentaine de chenapans qui ont déferlé sur lui au salon du livre. Il avait eu le temps de signer 2 livres. Il est allé se changer Et très stoïquement, il a repris sa séance de signature, absolument débarbouillée, quand la seconde vague d'assaut à la Spartacus a déferlé sur lui. Et ce qu'il y avait de tout à fait féerique, c'est que il y avait de plus en plus devant le stand Grasset des inconnus, des passants, des flâneurs, des libraires qui venaient nous féliciter. Il y en avait bientôt une centaine. Et une grande fiesta s'est déclenchée. D'ailleurs, l'entarteuse de Bernard-Henri Lévy au Salon du Livre, Bérénice, est dans la salle.
Oh. On va demander à Bérénice. Voilà, Bérénice. Au moins comme ça, le service d'ordre de BHL la reconnaîtra la prochaine fois.
Tâtons le pompe cornichon. Tâtons le pompe cornichon. Oui, 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 le pompe cornichon. Non, 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 le pompe cornichon.
En tarton, les pompeux cornichons. Cloup, cloup, cloup. En tarton.
Monsieur Bernard-Henri Lévy, comme vous le savez sans doute, est également un auteur de théâtre.
Acte 8. Anatole et Maude.
Donne, tu es trop bête.
Elle se lève. Lui arrache le téléphone des mains. Anatole tente de l'en empêcher.
Le jugement dernier, en 1992, dans toutes les mémoires encore aujourd'hui.
Mais mollement, sans insister.
Allô ?
Anatole ?
Allô ?
Et Maude. C'est, puis de nouveau à Anatole, le combiné à la main, sidéré.
Mais qu'est-ce que... Il n'y a rien. Il n'y a personne.
Non. Lumière plus douce. Décor épuré. Tout doit être fait pour concentrer l'attention sur le rapport entre les personnages. On attend un éclat, une perturbation majeure. Tu crois qu'on aurait fait confiance pour mener pareille entreprise à un has-been comme Anatole ? Alors,
il s'interrompt, puis, grinçant.
Bon, ça va comme ça, vraiment ça va comme ça.
Nous allons procéder maintenant. Je vous remercie beaucoup, monsieur Godin, Noël. Nous allons maintenant entendre la plaidoirie de maître Beau. Nous allons entendre maintenant le réquisitoire du procureur Beau.
Merci. Le grand écrivain devait me confier, j'éprouve les jours de mélancolie, le sentiment d'une incohérence totale. Et en effet, journaliste approximatif, romancier à éclipse, philosophe sans œuvre, éditeur à 16 heures, ovni humanitaire, cinéaste d'un jour et d'une nuit, conseiller des princes et de tous les princes, grand financier qui... considère ses amitiés comme autant de stock options et ses engagements comme autant de placements boursiers, eh bien, BHL a de quoi avoir le tournis. Et ce jour-là, me recevant, il avait ajouté un peu emphatique, ce n'est pas le critiquer que reconnaître que parfois, il peut être un peu emphatique, il avait ajouté, laissez-moi encore 30 ans pour démontrer que tout ce qui peut apparaître chaotique recèle une cohérence secrète. Et il l'a vraiment dit, hein. Pauvre Bernard. Nous voici 12 ans plus tard et la cohérence n'est toujours pas au rendez-vous, malgré les postures, impostures, divagations et gesticulations. Pire, comme l'a magnifiquement résumé Marianne Pearl, qui était la femme de ce journaliste américain assassiné au Pakistan, voici un homme dont l'ego aujourd'hui a tué l'intelligence. Car intelligent, il l'était. L'ego aurait pu être ce carburant qui l'aurait fait accéder à l'œuvre et à la postérité. Malheureusement, l'ego fut ce tyran
qui a consumé notre pauvre Bernard jusqu'à l'incandescence, épuisé, exténué, malgré les amphétamines, rameutant famille, amis, clan, réseau, travaillant à l'édification de sa propre gloire, jour et nuit condamné aux travaux forcés de la reconnaissance médiatique. Et comme le dit de lui son grand ami de 30 ans, Olivier Orban, patron de la maison d'édition Plomb, « Je n'aimerais pas avoir la vie de Bernard accroché 12 heures par jour à son portable. » Bernard Lévy espérait le prix Nobel, ou au moins le Goncourt. Il rêvait d'un déjeuner chez Lippe avec Dieu en personne à qui il aurait proposé un avaloir confortable chez Grasset. Il attendait la gloire, or il n'a obtenu que la notoriété. BHL ne laissera pas de nom, il laissera une marque. Et quelle marque dérisoire! La marque la plus achevée de notre système intellectuel et médiatique avec son cortège de compromissions, d'arrangements et de lâchetés. En cela, on ne peut pas le réhabiliter malgré toute la pitié qu'on peut avoir pour ce pauvre R. Pauvre Bernard, courant derrière cette image donnée en 1977 sur le plateau d'Apostrophe lorsque, nouveau philosophe à la chemise échancrée, il conspuait le goulag. Depuis, il court après cette image, bordant son personnage comme un lit d'appelé et se vidant peu à peu de sa substance. Mais le vrai scandale, c'est ce pari intellectuel et médiatique. Vous, intellectuel et média parisien, vous l'avez perdu en l'encensant, vous l'avez émasculé en le flattant et en le gavant de prime time télévisuel. Condamnons donc le système qui l'a fait roi et maître des élégances. Et je vous propose de condamner pour complicité chacun d'entre nous, pour avoir passé encore 2 heures à disserter sur BHL, comme s'il était l'épicentre de notre vie intellectuelle et politique.
Merci. La défense.
Alors, c'est un procès en réhabilitation de cet homme. Puisqu'il a déjà été condamné, il ne s'agit pas ici de le condamner ou non, il a été condamné. Et ce jugement de condamnation, il faut savoir s'il faut l'en relever. Alors, dans ce jugement, je lis « condamnation pour absence totale de modestie ». Il n'y a qu'un seul exemple qui est donné effectivement comme topic, on en a abondamment parlé, c'est l'ouvrage American Vertigo, qui s'est appelé dans une première version « Supplément au voyage de Tocqueville ». Alors évidemment, ce n'est pas très modeste. Alors là, moi c'est vrai, là j'ai rien à dire. Absence totale de modestie. Mais moi, je trouve ça bien. Ce ridicule, personnellement, il me fait rire. Je trouve ça plutôt distrayant. Et je trouve que plutôt que le condamner, il faudrait l'encourager dans cette voie. Alors, par exemple, après le discours de la méthode, BHL pourrait écrire le nouveau discours de la méthode, avec des illustrations en couleur et des encarts explicatifs. Ou bien pourrait écrire les pensées, suite et fin. Alors, moi, je propose, parce qu'il y en a d'autres, moi, je propose, pour achever l'être et le néant, je veux dire, l'être et le néant, on n'a pas tout dit. Quand on a dit l'être et le néant, on dit l'être et le néant, et tu publierais et tout le reste. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses que Sartre n'a pas traitées là-dedans. Et puis alors, il y a le voyage au bout de la nuit, quand même, ça c'est magnifique. Puis les voyages, ça BHL y connaît, la nuit aussi, il a beaucoup participé, les fêtes. Alors après, le voyage au bout de la nuit, moi je propose le petit crème à l'ouverture du fleur. Ça serait un magnifique ouvrage. Jugement, je lis toujours, condamnation pour vacuité absolue. Lors de la sortie d'American Vertigo, Le Monde 2, bon, c'est Le Monde 2, c'est vraiment, enfin c'est Le Monde. Le Monde 2 a publié un article de BHL, écrivant sur la façon dont BHL est reçu par les Américains pour son livre où BHL parle du regard de BHL sur les Américains. Et comme illustration, parce que Le Monde 2 c'est quand même fait pour les photos, comme illustration des photos de BHL dans sa chambre d'hôtel en train d'écrire son article pour Le Monde 2, son article décrivant comment BHL est reçu par les Américains pour son livre où BHL parle du regard de BHL sur les Américains. C'est vrai que ça donne une vision fugitive du néant. Fermez le banc, monsieur le président, je vous le confirme. C'est au dossier, mais c'est vrai. Oui, c'est un penseur vide. Un histrion qui dit blanc, puis noir, puis bleu, et ainsi de suite. Et alors, monsieur le président. Moi, je vous ferai remarquer une pensée de bon sens, mais il faut y penser. Ceux qui ne pensent pas sont tout aussi vides, et beaucoup plus nombreux. On n'a qu'un BHL. Et ceux qui pensent mal sont beaucoup plus dangereux. Est-ce sa faute si on lui prête tant d'attention ou celle de l'époque qui ne sait susciter personne d'assez fort à lui opposer? On nous le disait, dans les années 60, ça aurait été un essayiste, et on n'aurait pas fait de procès, aujourd'hui on en fait un philosophe. C'est Malraux qui le disait, sur fond de néant, la plus humble création prend des allures de miracle. Alors les temps ont changé, on l'a dit, avant on était une grande signature, maintenant on est une belle marque. Aucun nouveau concept n'a été produit par BHL, nous a dit Richard Labévière tout à l'heure. Vide intellectuel, néant moral, absence de style, vacuité totale. Eh bien, regardez mieux, regardez mieux. En réalité, c'est à une philosophie du vide que nous confie BHL. Ah. Et personnellement, j'y vois une forme d'esthétique. C'est beau le vide. C'est beau. Cet espace qui s'étend sans que rien ne vienne obstruer le regard, sans que rien ne vienne troubler la pensée. Si BHL était un monument, Monsieur le Président, et on peut dire quand même que c'est quelque part un monument, vu la place qu'il occupe dans les médias, si c'était un monument, eh bien je dirais que ce serait une cathédrale. C'est l'immensité des vides qui donne à voir l'élégance des formes. Alors cet acharnement de BHL à fabriquer du rien, à produire du vide, moi me fascine. Il me fascine parce que je me demande, mais quel est le secret de sa pompe à vide ? 30 livres, des centaines d'articles, des conférences, des interviews. Il fait fonctionner la pompe à vide, il pompe, il pompe, il pompe. Et pendant ce temps, BHL pompait, pompait, pompait. Eh bien, BHL, c'est le Shadog de la philosophie. Le jugement, je lis, condamnation pour abus de pouvoir. C'est un homme de réseau, je n'y reviens pas. Il a deux grands amis, Jean-Luc Lagardère, si proche qu'à son décès, à la demande de la famille, il en a prononcé l'éloge funèbre, et François Pinault, qui a racheté l'entreprise de son père. Le dossier ajoute, Lagardère et Pinault, le marchand d'armes et le marchand de bois, ce bois dont on fait les cercueils où reposent les hommes tués par les armes des marchands d'armes. Et ça, c'est un peu bas. Alors, vous le comprenez, moi je trouve ces accusations sérieuses, et il me faut y répondre. Pour y répondre, il faut prendre un petit pas de recul pour s'interroger qui est BHL. Eh bien, je vais vous le dire, parce qu'on ne l'a pas dit ce soir, BHL n'est pas Bernard-Henri Lévy. BHL s'appelle Bernard Lévy. Et c'est intéressant parce que, pourquoi il a ajouté le prénom d'Henri ? C'est en lisant un magazine, chez le dentiste, qu'il découvre qu'il y a quelqu'un qui écrit dans ce magazine qui s'appelle Bernard Lévy. Et il dit, c'est pas possible, je ne peux pas avoir le même nom qu'un autre Bernard Lévy, donc je rajoute Henri. Je précise, à l'époque, Bernard-Henri Lévy ou Bernard Lévy n'a rien publié. C'est un jeune homme de 24-25 ans. Ce n'est pas un pseudonyme d'auteur. Il ne veut pas que quelqu'un s'appelle comme lui. C'est simple. Alors, il ne choisit pas un pseudonyme. On garde Lévy, le nom du père. Important, ça. On garde Bernard, c'est-à-dire lui-même. Important aussi, apparemment. Et puis, on ajoute Henri. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, mais on ajoute Henri. En tout cas, ça le différencie, ça le singularise. Et il y aura désormais une vitrine, c'est BHL. Un homme qui incarne un peu la famille, l'ordre, le passé, c'est Bernard Lévy. Et puis un petit dernier, Henri, le trouble-fête, le moteur, l'avenir. Et là, on en a donc trois en un. Et d'ailleurs, BHL l'a déclaré, il a dit « Non, moi je m'aime pas beaucoup, j'habite avec moi. » Ou plutôt, comme disait Saint John Perse, « J'habite avec mon nom. » C'est pas neutre. Alors personnellement, BHL me distrait, Bernard m'inquiète, mais c'est Henri qui m'intéresse. Car je pressens une force obscure dans ce morceau d'homme, cet Henri, ce mystère Henri qui tente de faire pièce au docteur Nanard. Moi j'y vois comme l'ombre d'un prophète qui cherche en vain à s'exprimer. Un prophète secret enfoui au fond de BHL, au milieu, il y a le B, il y a le L et le H, il est au milieu. Alors moi j'entends votre surprise, vous allez me dire un prophète, exagération. Rappelez-vous le nom de la pièce, le jugement dernier. Sa deuxième œuvre, le testament de Dieu, où on étudie la Bible, les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe. Et dans une interview, BHL dit « Ce qui est important, ce qui nous est légué par la Bible, ce sont ces personnages mystérieux que la Bible appelle les prophètes et qui sont les vrais nouveaux philosophes de notre temps. » Alors là, moi je dis chapeau bas, voilà que les prophètes, Isaïe, c'est comme Bernard-Henri Lévy. Il rajoutera « J'avais envie de clamer ces vérités au monde. » Voilà pour l'essence du prophète, mais rien ne se passe. 20 ans se passent et toujours rien, pas de révélation. Étonnement et désolation pour ceux qui en attendaient beaucoup. Pas grand-chose pour les autres. Mars 1997, Dominique de Villepin, qui est un spécialiste de la défaite, comme chacun sait, se rend compte que Bernard-Henri Lévy a fait un bide pour son film. Et, communauté des hommes dans le malheur, discussion entre les deux, et Dominique de Villepin, qui n'en est pas à une phrase creuse près, dit badinement « Mais vous avez l'air d'un Christ sans plaie ». Alors, BHL, redevenu soudainement Henri, 20 ans après, n'entend pas la suite. Ses oreilles bourdonnent. Il sort, il est obsédé par cette phrase, il passe une nuit agité, il se réveille à 7 heures, il a les mains en sang, les paumes saignent, les paumes vont saigner pendant des mois, aucune explication médicale ne sera donnée à ses stigmates, il a les stigmates. C'est dans sa biographie officielle, donc c'est vrai. Et donc, si ça, c'est pas le signe de sa volonté prophétique, encapsulé dans le B et le L, au milieu, là, ce petit H qui veut s'exprimer, qui veut exprimer sa violence, parce que Henri est violent, on l'a trop peu dit. Mais c'est vrai qu'il veut péter la gueule à coups de talon au gloupier. C'est vrai. Mais on sait trop peu qu'il a pété la gueule à son prof de Sciences Po, ce qui lui a valu d'être exclu. Qu'il a pété la gueule à Jean Dernallier. Et moi-même, je me prépare au pire. Alors, Mister Riton veut être prophète. Mais le docteur Nanar, lui, veut plaire à tout prix. Conflit. Et voilà, de ce conflit non résolu, nous trouvons un homme prêt à tout qui n'arrive à rien. Et c'est pour ça que BHL, s'il reste inachevé, demeurera pour l'histoire de la philosophie comme les pompiers dans la peinture ou les band boys pour la musique. Ce serait quand même du gâchis. Alors, moi je propose une réhabilitation, mais une réhabilitation partielle juste de Henri qui m'intéresse. Et je citerai un spécialiste des hommes, François Mitterrand, qui dans L'abeille et l'architecte disait « Je ne m'inquiète pas de ce goût de plaire qui habite Bernard Lévy à l'époque et l'entraîne aujourd'hui hors de son territoire. » Quand il s'apercevra qu'il possède en lui-même ce qu'il cherche, il reviendra à sa rencontre. Il a déjà dans le regard ce dandy de la cendre. Alors, réhabilitez Henri. Aidez-le à purger le docteur Nanar pour découvrir Mister Riton. Il ne peut pas toujours rester le Jerry Lewis belge spécialisé dans le duel au gâteau. S'il veut devenir Malraux, Hemingway ou Camus, il devra accepter la richesse du monde, ses nourritures variées, la jouissance de la vie, plutôt que l'obsession de l'image de la vie. Réhabiliter Henri, Monsieur le Président. Et au prochain entartage, on le verra s'asseoir par terre, manger la crème de la tarte sans maculer le visage, sans pourlécher les babines en chantant des comptines. Et Zozo aussi. Puis il lancera un scud à la crème sur la maison du gloupier. Première étape d'une prophétie terrible que nous découvrirons ensemble avec stupeur et ravissement. Réhabiliter Henri, Monsieur le Président, pour qu'il vive, qu'il rie, et surtout pour qu'enfin, enfin, enfin, il écrive.
Alors après en avoir rapidement délibéré. Voici le jugement de Dieu. La Cour prononce la réhabilitation de Lévy Bernard Henri, mais uniquement par lâcheté et par opportunisme, comme le font depuis si longtemps journalistes, intellectuels, élus, grand patron et fabricant de chemises, mais aussi parce que cet imposteur attire en permanence sur lui des projecteurs qui finiront par mettre en lumière tout un système de corruption matérielle et morale qui trompe et écrase le peuple et que le peuple, un jour, à son tour, écrasera. Cependant, pour que cette réhabilitation soit pleine et entière, Monsieur Lévy Bernard Henri, qui d'après nos toutes fraîches informations devrait bientôt être élu à l'Académie française, sur l'insistance de son amie Madame Hélène Carrère d'Encausse, devra, et c'est la décision du tribunal, porter un habit vert, mais vert couleur de cornichon. Je vous remercie.
nouveau chapeau de Zozo. C'est un chapeau à babot rigolo. Sur le devant, on a posé trois plumes de paon. Et sur le côté, un amour de perroquet. Pour être original, il est à, je vous le jure, ce n'est pas le pipi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo?
Voilà, merci à tous, merci à Noël Godin, l'entarteur, alias le gloupier, merci à Rabah Mamouni, merci à William Bourdon, qu'on a entendu hier, merci à Philippe Cohen, merci à Marilyn Kay, Richard Labévière, Nicolas Beau et Olivier Tesser. Je rappelle les livres dont il a été question au cours de cette audience, le livre de Philippe Cohen, chez Fayard, BHL, une biographie, un gros livre très très complet sur le phénomène BHL. Et puis l'autre livre dont nous avions parlé dans des émissions précédentes de Nicolas Beau et Olivier Tesser, BHL, une imposture française, c'est aux éditions des Arènes. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Julien Chabassu. Cette émission et ses audiences ont été réalisées et montées par Antoine Chao et Yann Chouquet, assisté de Pascal Le Pascariello et de Christophe Imbert, qui a la charge du répondeur de Là-bas si j'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermer@radiofrance.com. daniel.mermer@radiofrance.com. Et et puis je vous rappelle le site sur lequel vous pouvez consulter la pétition concernant l'avenir de Là-bas si j'y suis, c'est www.là-bas.org, www.là-bas.org. Voilà, réclame.
Vous voulez devenir plus riche que riche? Ah bon? Alors vendredi, Euromillions met en jeu près de 46 millions d'euros. 46 millions. Heureusement, ma petite machine les compte à ma place.
Ah! Doit y avoir un petit million qui bloque là. Aïe!
Estimation non garantie des gains à partager en 1, voire règlement.
Euromillions! Devenez plus riche que riche.
Euromillions est un jeu de la Française des Jeux.
Vous connaissez la dame âgée qui habite au troisième gauche?
Non. Et pourtant, elle vit dans l'immeuble depuis 35 ans. On n'entend jamais de bruit chez elle. Elle est discrète et on a l'impression qu'elle ne veut pas être dérangée. Mais elle a peut-être besoin d'aide.
Les périodes de forte chaleur nous rendent plus vulnérables et la solitude est un risque supplémentaire. En prenant régulièrement des nouvelles des personnes âgées de votre voisinage, vous pouvez tout simplement leur sauver la vie. N'attendons pas pour être solidaires.
Ceci est un message de l'INPES et du ministère de la Santé.
Bon, alors, vous voulez changer de banque et venir chez LCL? Bon, c'est très simple, virement, prélèvement, on s'occupe de tout, gratuitement. Et franchement, vous voulez pas qu'en plus on vous offre l'électricité? Si. D'accord. Alors LCL vous rembourse 5% de vos factures d'électricité. Vous avez bien entendu, 5% de vos factures d'électricité. Alors, heureux?
Avec LCL, demandez à votre argent. Offre valable jusqu'au 30 juin 2007. Réservée aux nouveaux clients et à hauteur de 80 euros. Voir conditions en agence.
Voilà, il est 17h59. Je rappelle à nouveau la pétition qui est en ligne sur l'avenir de Là-bas si j'y suis. www.la-bas.org. Je rappelle que cette pétition a été